C'est toujours Bastien et Juliette et Diana et Agathe vont interviewer Paul Huguin. Donc on vous laisse la main.
Alors bonjour Paul Huguin.
Bonjour.
Alors on vous remercie tout d'abord d'être venu et d'avoir accepté cette interview. On vous laisse vous présenter à nos interlocuteurs.
Ok. Donc moi c'est Paul, je suis menuisier et donc je fais entre autres des réalisations sur mesure. Et j'anime aussi des ateliers d'autoconstruction de mobilier en bois. Et voilà, donc j'ai cette double activité. J'interviens pour des associations, des institutions. Et l'objectif est de transmettre en fait un savoir, de transmettre les techniques. Et puis là, dans le cadre de l'atelier aujourd'hui, les participants repartent avec leur création.
D'accord. Alors justement, en ce qui concerne votre métier, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi cela consiste-t-il ? Précisément.
Alors sur la partie animation de chantier participatif.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui.
Alors en fait, le principe, c'est que on a un temps donné. Donc là, par exemple, pour aujourd'hui, on est sur 2 heures, mais ça peut être une journée, plusieurs semaines. Et l'idée, c'est de réaliser une construction ensemble. Donc là, aujourd'hui, c'est une marmite norvégienne. Mais par exemple, en ce moment, je travaille aussi à la ZAC des Beaumont, où là, on construit carrément du mobilier à l'usage du lieu. Donc là, on est sur plusieurs semaines. Et donc moi, j'apporte les matériaux, j'apporte les machines, et j'encadre en fait le groupe qui est là. Je transmets les techniques, je transmets aussi les bons petits trucs à savoir. Et puis l'idée, c'est de construire ensemble un objet dans le cadre d'aujourd'hui. Et au-delà de l'atelier, ce qui est intéressant, c'est les rencontres humaines, c'est les échanges, et c'est aussi le fait de pouvoir prendre confiance dans la construction, dans ses propres capacités. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ces ateliers, c'est que c'est essentiellement en fait un public féminin qui vient et qui est dans une démarche de vouloir apprendre la construction bois. Parce qu'en fait, dans leur famille, dans leur histoire ou dans la société, je ne sais pas, c'est pas quelque chose qui est facilement transmis aux femmes. Et du coup, ça se fait un peu naturellement, mais c'est assez intéressant. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui prennent vachement confiance en elles, dans la construction, et du coup, qui viennent me voir après, plus tard, en me disant « Ah, je me suis acheté une boîte à outils » ou « Ah, je me suis acheté une perceuse et ça y est, je fais des meubles chez moi ». Et donc ça, c'est génial, quoi. Donc c'est aussi ça que je transmets dans les ateliers.
Et du coup, qu'est-ce que ça vous apporte de partager toutes ces connaissances et au niveau des femmes, par exemple, est-ce que vous avez remarqué, par exemple, un pic dans la hausse de la présence des femmes après le coronavirus ? Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se sont mis au bricolage pendant le coronavirus. Avez-vous remarqué une hausse de la clientèle après cette pandémie ?
Non, moi, je n'ai pas vraiment vu de changement de ce point de vue-là. Au niveau de la fréquentation, il y en a toujours eu autant avant et après. Pendant, forcément, ça a été compliqué. Donc,
clair.
Il y a eu une pause. et après, pour répondre à la première question, moi, ce que ça m'apporte, c'était ça.
C'est ça.
Moi, j'aime beaucoup être dans la transmission. Moi-même, en fait, je ne suis pas du tout menuisier de formation. En fait, c'est une reconversion professionnelle.
D'accord.
Moi, de formation, je suis ingénieur chimiste. Et je me suis reconverti il y a 9 ans de ça. Et j'ai appris, en fait, par ce biais-là, en fait, aussi de personnes qui transmettaient, qui partagent. Et voilà, dans des groupes, alors aussi bien des groupes physiques que sur Internet. Et donc moi, je m'inscris en fait dans cette démarche-là de pas forcément conserver le savoir-faire pour moi, mais plutôt de le transmettre. Et du coup, d'être dans une idée de faire circuler en fait le savoir.
Du coup, vous n'avez pas d'études précisément qui vous ont mené à ça en fait. C'est plutôt des circonstances qui font que...
C'est une passion.
Vous êtes dirigé là-dessus.
Aussi, en fait, moi, j'avais envie de faire des choses manuelles.
D'accord. Mais c'est inné, en fait, ou c'est vraiment quelque chose qui est venu avec le temps ou...
J'ai toujours beaucoup bricolé.
D'accord.
Depuis que je suis tout petit. Et c'est un intérêt que j'ai.
Okay.
Et après, c'est le travail du bois aussi. Voilà, c'est une matière, moi, qui...
C'est quelque chose que vous faites dans votre vie tous les jours, pardon ?
Ah bah aujourd'hui, oui. D'accord. Et quand dans mon ancien boulot, en fait, le week-end, je faisais des bricolages, je construisais mes meubles. Enfin, ça fait depuis très très longtemps que je construis des meubles, et voilà.
Et d'où vient cette volonté d'avoir voulu faire une reconversion de carrière ? Est-ce que c'est le manque de contact humain dans le métier de chimiste, ingénieur chimiste, ou c'était vraiment une volonté de partager ses connaissances avec les autres ?
Moi, là, en fait, la reconversion, elle s'est faite dans un, on va dire, un dégoût aussi.
Un dégoût de votre travail ?
Ouais, d'accord. Du cadre, de l'activité. En fait, je ne m'y retrouvais plus, en fait, c'est ça, on va dire comme ça. J'avais envie de passer à autre chose. Et j'étais sur un travail qui était assez administratif.
C'est quelque chose qui ne vous correspondait plus, tout
voilà,
simplement.
Voilà, ça ne me correspondait plus. Les valeurs défendues, les personnes aussi que je fréquentais dans le milieu professionnel. Je me suis rendu compte que je ne partageais pas énormément de choses avec ces personnes. Et voilà, du coup, je suis parti de là en me disant, bon, bah, je tente, en fait. J'ai envie de me lancer dans la construction en bois, bon bah j'y vais. Et voilà. Et du coup après ça s'est construit au fur et à mesure.
Bah c'est ça, c'est qu'au final vous aviez plus rien à perdre, vous vous êtes dit bah je pars et j'essaye quelque chose qui me plaît et si ça marche tant mieux et si ça marche pas j'essayerai d'aller ailleurs.
En l'occurrence ça a marché du coup ?
Ça a marché, alors ça n'a pas été évident au départ, ça a été même plutôt un défi challengeant. J'ai eu la chance, je pense, d'avoir aussi beaucoup de soutien autour de moi, familial, de ma compagne qui est aujourd'hui ma femme. Et pour moi, ça a été vraiment crucial de pouvoir avoir des personnes qui croyaient en moi dans le fait de lancer mon activité. Et c'est aussi ça que j'essaie de transmettre, moi, dans mes ateliers. On est dans un moment où, en fait, on se soutient tous. On n'est pas là pour se juger, on est là pour apprendre ensemble et pour surtout prendre confiance en nous. En fait, on est capable de faire beaucoup de choses par nous-mêmes, quoi.
Non, mais parce que c'est vrai que des activités manuelles en groupe, ça apporte beaucoup plus qu'un monde numérique qu'on a actuellement. Et d'ailleurs, quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici pour la semaine de l'interculturalité ?
Alors, je suis ici pour mener un atelier et encadrer un atelier d'autoconstruction de marmite norvégienne. Voilà, avec les étudiants, étudiantes. Peut-être qu'il y aura du personnel de la fac, je ne sais pas.
Possiblement.
Pourquoi pas ?
Je ne sais pas qui est inscrit pour l'instant. Voilà, donc c'est ça la raison de ma venue aujourd'hui.
D'accord. Et pourquoi les marmites norvégiennes ?
Alors, pourquoi les marmites norvégiennes ?
D'où ça sort, cette idée ?
Alors, ça s'inscrit, en fait, dans la démarche. Donc, je pense que c'est un procédé qui existe depuis longtemps, mais qui est remis au bout du jour par la mouvance des low-tech, et donc qui est plutôt dans une démarche dans l'économie d'énergie, dans des idées un peu intelligentes aussi.
C'est clair.
Et donc là, moi, ça me plaît aussi parce que moi, je viens d'un monde scientifique aussi où j'ai toujours été sensible à ces questions-là. Et le principe, en fait, de la marmite norvégienne, c'est que c'est un caisson isotherme. C'est comme une glacière, un petit peu, si on veut, mais faite pour garder le chaud, en fait. Donc le principe, c'est qu'on construit une boîte isolée dans laquelle, en fait, on va venir finir la cuisson des aliments. Et donc finalement, on économise tout le chauffage. Par exemple, si on doit cuire un aliment pendant une heure, en fait, on le fait bouillir au départ. Et puis après, juste, on le met dans la marmite norvégienne. Et la cuisson se termine lentement. Et du coup, ça préserve une heure de cuisson, finalement, pour rien.
C'est clair. Et on a pu voir que votre atelier est très axé sur l'écologie. Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur ? Et est-ce que ça a une place importante dans votre quotidien ?
Non, pas du tout.
C'est clair que ça. Non, franchement, j'adore utiliser la voiture tout le temps.
Oui, bah, moi, c'est bien sûr, c'est une thématique à laquelle je suis sensible. Par exemple, moi, quand je réalise des ateliers comme aujourd'hui, j'essaye de réfléchir au maximum pour faire le minimum d'achats, en fait, et d'être au maximum dans la réutilisation de matériaux. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on va être sur l'isolation que j'ai choisie. C'est en fait des copeaux de bois, donc qui a une forte capacité à retenir de la chaleur.
D'accord.
Et donc moi, c'est des copeaux que je génère, en fait, dans mon activité. Et du coup, c'est une manière de réutiliser sans devoir acheter de la matière.
En fait, c'est de la récupération que voilà. Vous... D'accord, c'est des copeaux que du coup, vous réutilisez suite à vos activités, en
c'est
fait.
C'est ça. D'accord. Ouais. Donc moi, quand je rabote du bois, je génère du copeaux. Et là, on va pouvoir l'utiliser pour isoler les marvilles norvégiennes. Et on va faire une partie de l'habillage aussi en lame de palette. Donc c'est pareil, là, c'est du bois qui est à destination de la poubelle, en fait.
Il n'y a pas d'achat, enfin, vous n'achetez pas de
matière. Si, après, il y a quand même une partie d'achat.
Mais il y a quand même peut-être 50% quand même de matériaux qui vient de votre propre activité.
C'est ça.
D'accord.
Oh, et ça veut dire que vous n'allez pas, par exemple, dans certains lieux pour aller récupérer du bois, c'est plutôt de l'utilisation de ce que vous achetez, par exemple, pour votre métier de menuisier, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et... Moi, j'ai une activité où je génère aussi pas mal de ce qu'on appelle de chutes de bois. En fait, c'est des morceaux quand je découpe, par exemple, des planches ou des panneaux qui, sur le moment, ne servent à rien, mais que moi, je stocke parce que je peux réutiliser pour faire, par exemple, des objets comme ici. Je vais faire aussi un autre atelier pour la fac en décembre où là, on va fabriquer des petites enceintes en bois pour les téléphones portables. Et là, pareil, j'utilise en fait des chutes de mon activité. Donc, j'achète pas spécifiquement du bois pour ça. Et donc, mon atelier est rempli de chutes de bois que je stocke, je range, je trie par taille, par dimension,
tous les Donc, tous les ateliers que vous animez, en fait, tous les matériaux que vous utilisez, c'est vraiment
que de la récupération.
En fait.
Alors, quand je peux, c'est pas toujours possible. Et après, je m'inscris aussi dans une démarche de favoriser le commerce local. C'est-à-dire que... au lieu d'aller acheter mon bois chez des négociants qui font venir le bois d'un peu partout en Europe, je travaille avec des scieries en local. Et donc, elles qui vont couper le bois en fait, sur place et qui permet en fait, d'être dans un circuit beaucoup plus court. Pour le coup, là, ça a eu un réel intérêt post-Covid où il y a eu une augmentation de toutes les matières premières, dont le bois. Et le fait d'être en direct avec des producteurs, eh ben, le coût était bien, bien inférieur, en fait. Et du coup, ça montre bien que quand on ajoute du transport, des intermédiaires, finalement, on explose les coûts. Écologiquement, c'est absurde. Alors qu'on peut avoir du bois de qualité juste ici, quoi.
C'est ça, proche de chez nous. Mmh. Et seriez-vous prêt à revenir l'année prochaine pour mettre en avant un nouvel atelier sur l'écologie, quelque chose d'un peu méconnu ? Parce que c'est vrai que les marmites norvégiennes, c'est un concept que je ne connaissais pas personnellement. Et avez-vous d'autres faces de l'écologie que nous ne connaissons pas, que vous pouviez nous présenter ?
Eh bien, il y a peut-être un four solaire. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
Ah non, du tout.
Absolument pas.
Pas du tout.
Voilà. Donc, ça pourrait être ça, par exemple. Donc là, on utilise en fait... c'est une sorte de caisson aussi isolé, mais là, avec une vitre qui va faire en fait un effet de serre. Et on renforce avec des sortes de miroirs. L'idée étant, en fait, de pouvoir faire de la cuisson d'aliments. Sans chauffage, en fait, juste en bénéficiant du soleil.
Le concept est un peu le même, du coup, non ?
Alors là, on utilise l'énergie du soleil pour cuire, d'accord. Donc pour faire monter la température et cuire, alors que la marmite norvégienne, c'est une fois que c'est chaud, on l'isole et on garde en température. En fait. Mais effectivement, on garde un peu cette idée d'avoir un caisson étanche et isolé.
Super.
Alors, on a pu faire des recherches sur vous et on a pu voir que vous étiez dans une coopérative d'activité et d'emploi Artefact.
Artefact, c'est ça.
En quoi ça consiste, votre implication dans cette coopérative ?
Alors, juste avant de répondre à la question de l'implication, je vais expliquer comment j'en suis arrivé à intégrer cette coopérative. Si ça vous dit.
Avec plaisir. Bon,
avec plaisir, allez-y.
C'est que moi, quand je me suis lancé, j'avais plusieurs possibilités. En fait, c'était soit de monter une entreprise à mon nom, d'ouvrir une micro-entreprise. Mais je ne me retrouvais pas forcément non plus dans ces valeurs-là ou le fait d'être seul dans mon activité. Moi, je voulais être aussi dans un partage, dans un collectif. Et j'ai trouvé que sur Tours, il y avait cette coopérative Artefact. En fait, qui est une entreprise, on va dire, sous un statut juridique classique, après qui fonctionne quand même sous forme de SCOP, donc de société coopérative. Et l'idée, c'est que chaque personne qui intègre cette coopérative puisse être salarié entrepreneur. Donc c'est comme si, en fait, j'avais mon activité en auto-entreprise, mais sous un statut salarié. Et donc, en fait, moi, ça me permet de travailler avec tout un collectif de personnes et de faire des projets communs. Donc, je travaille, par exemple, avec une autre menuisière. Donc, on travaille au projet sur en fonction des missions. Quand il y a besoin qu'on soit deux, ben, on travaille à deux. Je travaille avec une paysagiste, je travaille avec une animatrice nature. Voilà. Et puis après, quand il y a besoin dans cette coopérative de construction bois, par exemple, ben, on fait très souvent appel à moi. Et en fait, on est sur la coopérative est sur toute la région centre. Et on est plus d'une centaine de salariés, en fait. Et donc, il y a une antenne à Tours, une antenne à Orléans et une antenne à Blois.
Vous êtes vraiment beaucoup... Pardon, excuse-moi. Vous êtes vraiment beaucoup dans le partage, en fait. Vous préférez
Pour moi, c'est important d'être dans un collectif. Et puis, sinon, en fait, moi, je n'avais pas envie de me retrouver seul, tout seul dans mon activité. Mm-hmm. Des fois, il y a besoin de partager des questions très bêtes, hein, mais quand c'est compliqué avec un client, comment on fait, comment on fixe ses prix, comment on fait sa communication. Enfin, voilà, toutes ces questions-là qu'on aborde, en fait, dans la coopérative.
Bah, c'est surtout un moyen de tirer le meilleur de ce que les autres métiers ont à proposer et aussi de l'expérience des autres personnes. Mmh. Et est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette coopérative ?
Et oui, moi je suis arrivé en 2015. Donc ouais, ça commence à faire un certain nombre d'années. Voilà. Et après... Après, je ne vais pas vous mentir, le collectif, c'est compliqué aussi.
Ouais, ça, c'est des faux, je pense.
Je pense que pour tout le monde, que ce soit dans des travaux de groupe ou encore une grosse coopérative comme ça, ça risque des fois, c'est compliqué.
Et donc voilà, il y a aussi d'autres aspects à être dans un collectif et de la coopération. Mais moi, en tout cas, moi, je me retrouve plus là-dedans que d'être tout seul.
C'est quelque chose qui vous pousse quand même assez vers le haut. Ça a beaucoup d'avantages.
Ouais. Ah oui. Et puis, le gros avantage qu'il y a aussi pour moi, c'est que toute la partie administrative et comptable, en fait, il y a des personnes dans la coopérative qui sont
en charge
de
gérer.
Ça. Voilà.
Oui, c'est ça.
Et alors ça, moi, c'est génial parce que ce n'est pas du tout mon activité. Moi, ça ne m'amuse pas du tout. Et je préfère le déléguer à des personnes qui aiment ça et qui sont compétentes qui peuvent m'accompagner là-dedans.
Et est-ce que vous avez déjà envisagé de quitter ce métier pour reprendre votre vie d'ingénieur chimiste ou pour aller vers une autre voie ?
Alors c'est marrant que tu me poses cette question parce que, dans mon ancienne activité, j'étais fonctionnaire et je suis toujours en disponibilité en fait et c'est ma dernière année. Et donc la question va se poser, en fait j'ai le droit à 10 ans de disponibilité dans la fonction publique. Et c'est-à-dire que pendant... je fais une pause de 10 ans.
Vous pouvez être rappelé, c'est ça ?
Chaque année, je renouvelle ma demande.
D'accord.
Et ce qui fait qu'à la fin, en fait, la question se pose de est-ce que je retourne dans la fonction publique ou est-ce que je quitte définitivement ? Bon, je pense que ce sera plutôt la deuxième solution.
Parce que, c'est clair qu'après 10 ans...
Je me retrouve beaucoup plus dans ce fonctionnement-là, qui a des contraintes aussi, hein, parce que... C'est-à-dire que moi, je suis à mon compte, donc j'ai pas un salaire qui tombe forcément à la fin du mois, quelle que soit l'activité. Enfin voilà, il y a d'autres contraintes d'être à son compte. Mais moi, je me retrouve beaucoup plus dans ce mode de fonctionnement que dans un mode de fonctionnement plus conventionnel, si je pourrais dire.
Et donc, dernière question, est-ce que c'est quelque chose qui fait que vous êtes épanoui à l'heure d'aujourd'hui, le métier dans lequel vous êtes désormais ?
Ouais, carrément. Bah ouais, parce que moi, en fait, à la base, c'est une passion. J'ai réussi à en faire un métier, une activité professionnelle où j'arrive à en vivre. Donc moi, je suis super content de ça. Et puis là, je viens de quitter la ville de Tours où en fait, j'habitais et je travaillais avant pour aller m'installer à la campagne. Où là, c'est une autre démarche, une autre dynamique aussi. Et donc voilà, c'est un nouveau départ dans cette activité. Avec des nouveaux challenges aussi. Donc moi, c'est toujours aussi épanouissant pour moi.
Super. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci de votre temps surtout.
Avec plaisir.
Et puis du coup, on pourra vous retrouver au sein de l'atelier des marmites norvégiennes.
C'est ça.
Je reprends la main du coup. On va se mettre une petite pause musicale avant de reprendre avec la dernière chronique interculturelle d'aujourd'hui sur la représentation Le Favori. Et on se retrouve juste après en musique.